Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale que vous retrouverez tous les jours sur France Culture, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Luc Alazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Dalia. Nouvelle série dans Culture Monde consacrée aux restrictions des droits et des libertés au temps du coronavirus. Nous parlerons de la liberté d'informer, du droit du travail, du droit à la vie privée, à la protection des données personnelles, un sujet particulièrement d'actualité avec les applications de traçage des individus destinées à nous protéger contre la pandémie. Mais pour commencer, penchons-nous sur une liberté fondamentale et mise à rude épreuve par le confinement, la liberté de circuler.
Pour empêcher aux nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, nous suspendons tous les voyages en provenance de l'Europe pour une durée de 30 jours. Cette nouvelle mesure va prendre effet vendredi à minuit. Cette mesure ne s'applique pas au Royaume-Uni.
Les pays du monde entier imposent plusieurs restrictions au départ et arrivée sur leur territoire pour empêcher la propagation du virus. La restriction temporaire d'entrée en Corée du Sud pour les étrangers qui ont séjourné à Hubei et la suspension du programme sans obligation de visa pour les étrangers visitant l'île de Jeju étaient des étapes inévitables pour protéger la population.
Un des sujets importants d'aujourd'hui, c'était bien sûr les frontières intérieures et les blocages que l'on observe. Nous devons absolument débloquer cette situation, car beaucoup de gens sont bloqués et ne peuvent pas rentrer chez eux. Il y a aussi beaucoup d'embouteillages. Le flux de marchandises doit repartir. Nous avons besoin de ces marchandises pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le 12 mars dernier, alors que la pandémie touchait tout juste le territoire américain, le président Donald Trump annonçait l'interdiction d'entrer sur le territoire à tous les étrangers depuis l'Europe afin de limiter la propagation du virus quelques semaines plus tôt. C'était du côté de la Corée du Sud que le président décidait également de fermer les frontières. Et puis quelques jours plus tard, c'est du côté de l'Union européenne que les frontières se refermaient avec le retour des contrôles pour les mêmes motifs dans l'espace Schengen, pourtant pensé précisément pour permettre la libre circulation dès le début du mois de mars. L'Autriche avait même instauré un contrôle drastique de sa frontière avec l'Italie, exigeant une attestation médicale pour passer d'un côté à l'autre. Un peu partout dans le monde, les frontières se font donc un peu plus hermétiques, même si en réalité cette tendance a commencé avant la crise sanitaire, bien sûr. Alors la Covid pourrait-elle changer la donne? Le retour des frontières que d'aucuns attendent depuis longtemps pourrait-il finir par advenir? Le repli, le protectionnisme, le souverainisme sont-ils voués à s'imposer partout? Et alors, que restera-t-il de notre droit à circuler? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Michel Fouché. Bonjour Michel Fouché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, ancien diplomate, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Vous avez énormément travaillé autour de la question des frontières. Vous aviez d'ailleurs écrit sur ce sujet, le retour des frontières. Il y avait une édition assez récente chez CNRS Éditions. C'était en 2016, mais vous vous intéressez évidemment également à la question des souverainismes, des populismes, du nationalisme. Vous aviez notamment signé avec Bertrand Badi vers un monde néolibéral, toujours aux éditions du CNRS. Avec nous également Yves Pasqua, bonjour.
Bonjour.
Vous me corrigez, vous avez raison Michel Fouché. Bonjour Yves Pasqua, pardon, merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes-vous directeur du programme Europe pour l'association Respublica. On va évidemment beaucoup s'intéresser ce matin à la question du retour des frontières, mais avant de regarder ce que cela produit sur le plan politique, je voudrais qu'on dresse peut-être un petit tableau. Et alors là, je me tourne du côté du géographe que vous êtes, Michel Fouché, pour qu'on ait un peu une idée de ce qui s'est vraiment passé là, ces dernières semaines, autour de ces frontières. Est-ce qu'on a l'idée de l'ampleur et de la géographie de ce retour conjoncturel, bien sûr, mais qui pourrait peut-être devenir un peu plus structurel, de ce retour des frontières? Michel Fouché, vous nous faites une carte?
Écoutez, oui, la carte serait double. La carte des limites des surfaces est plus importante, la carte des flux, puisque le virus a suivi les grands flux de transport hein, qui n'ont jamais été aussi nombreux. Une évaluation assez précise, c'est plus de 110 pays dans le monde, hors Europe, qui avait pris dès le mois de mars des mesures de fermeture des ports, des aéroports, des frontières terrestres, soit complètes, soit ciblées sur les foyers du virus, avec des arrangements sur les nationaux de retour, les touristes, les travailleurs migrants dont on reparlera, soumis à des quatorzaines plus ou moins contraignantes. Quelques exceptions géopolitiques, j'ai remarqué que de Chine on pouvait toujours aller en Iran ou au Laos, et que la liaison entre Tirana et Istanbul avait été maintenue, que le Maroc, l'Algérie, le Nigeria avaient conservé leurs relations avec le continent africain. Les États-Unis ont négocié des fermetures de frontières et a annoncé seulement hier la fermeture de la frontière avec le Brésil. C'est-à-dire que jusqu'à hier, les deux foyers les plus importants étaient en communication permanente.
Donc, alors, on va essayer, Michel Fouché. On a un petit souci dans la liaison, donc on va essayer de la rétablir pour qu'elle soit un petit peu meilleure. Yves Pascaud, peut-être allons-nous avancer dans notre discussion et regarder ce que ce retour des frontières produit dans nos esprits, parce qu'on voit bien qu'en quelques semaines, on a des milliards d'individus qui ont dû se confiner et donc ce principe de la barrière s'est imposé un peu partout avec des limitations de déplacement qui sont inédites à l'intérieur des pays évidemment, entre les nations, on l'entendait avec Michel Fouché, entre les individus qui doivent désormais respecter la distanciation physique. Est-ce que Yves Pascaud, finalement, ce coronavirus n'est pas en train de forger dans nos esprits, hein, cette perspective du grand retour des frontières, qui avait évidemment pas disparu, mais qui était devenue presque invisible à nos yeux, Yves Pascaud?
Oui et non, je pense qu'il le ravive comme les crises précédentes ont ravivé la question de la frontière. Il faut se rappeler qu'en l'espace de 10 ans, la question du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen s'est imposée comme dans le débat public de manière récurrente. En 2011 avec la séquence dite du printemps arabe, en 2015 avec ce qu'on a appelé la crise migratoire, et aujourd'hui avec la crise sanitaire. En fait, à chaque fois que l'Union européenne et ses États membres ont été confrontés à une arrivée plus importante de personnes ou à un phénomène sanitaire tel que celui du coronavirus, le réflexe a été quasi instinctivement de se retrancher derrière sa frontière nationale en pensant que c'était derrière celle-ci et uniquement celle-ci qu'on était le mieux protégé. Donc la réalité, c'est que la question et le poids à la fois psychologique et politique de la frontière nationale est là, il existe et il est ravivé, voire même intensifié et même instrumentalisé par certaines formations politiques au fur et à mesure des événements qui se répètent.
Et est-ce que si ce principe de la frontière s'impose dans nos esprits, est-ce que mécaniquement les forces souverainistes de droite comme de gauche vont se voir renforcées, ou vous pensez que c'est plus compliqué que ça?
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on peut considérer deux choses. Il y a deux types de frontières, en fait, dans l'Union européenne. Il y a la frontière extérieure de l'espace Schengen et les frontières intérieures. La réalité, c'est que depuis 20 ans, et notamment à la faveur justement des formations populistes et souverainistes, le travail sur la frontière extérieure de l'espace Schengen n'a jamais cessé d'être réalisé. Et aujourd'hui, le corpus à la fois juridique et opérationnel de contrôle de la frontière extérieure de l'espace Schengen est très très avancé. Et ce point-là est à l'agenda européen depuis 2015, notamment parce que les formations politiques d'extrême droite et les partis populistes n'ont fait en sorte que le seul point sur lequel on puisse discuter au niveau européen, ce soit celui de la gestion de la frontière extérieure. Donc là, on a d'une certaine manière la réponse, en fait, à un contexte politique qui est assez important dans les États européens. Et la nouveauté, c'est celle du contrôle de la frontière intérieure.
Mais est-ce qu'il faut s'attendre, je réitère ma question, Yves Pascaud, est-ce que dans les mois qui viennent, un certain nombre de pays décident d'encore aller vers plus de protectionnisme, de souverainisme, de contrôle des frontières?
Ben, on pourrait l'imaginer, mais la réalité, comme je disais tout à l'heure, est beaucoup plus complexe, parce que le marché intérieur entre les États européens est à ce point intégré que tout ce qui a motivé l'intervention de la Commission européenne, c'était précisément de ne pas rompre les chaînes d'approvisionnement. alimentaire, médical et de produits qui permettaient notamment de répondre à la situation sanitaire. Donc on voit bien que le marché intérieur est un marché qui est excessivement intégré et que les chaînes d'approvisionnement elles ne sont plus nationales. Mmh. Et par ailleurs, ce qu'on a vu arriver la semaine dernière, c'est tout ce plan pour dire attention, il y a beaucoup de pays européens qui vivent du transport et du tourisme. Et les dégâts économiques provoqués par la fermeture des frontières doivent désormais être rééquilibrés et on doit réouvrir les frontières aussi pour des raisons économiques et en particulier de tourisme.
On reviendra, Yves Pascaud, évidemment sur le cas européen, mais je vais me retourner à nouveau vers Michel Fouché, dont on a dû rétablir la liaison. Michel Fouché, est-ce que vous m'entendez ?
Très bien.
C'est parfait. Alors, je redis en quelques mots ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu nombre de pays, 110 disiez-vous, hors de l'Union européenne, qui ont décidé de fermer leurs frontières, même si, le rappeliez-vous, là aussi, c'était assez étonnant de voir que entre le Brésil et les États-Unis, qui étaient deux pays qui sont deux pays très touchés, on a fermé la frontière seulement hier. Donc, on voit que finalement, les règles sont pas forcément seulement dictées par les considérations sanitaires. Mais je vais vous poser la même question que celle que je posais à Yves Pascaud, parce que ça fait des années qu'on parle de ce retour des frontières, de cette tendance au repli, au protectionnisme qui gagne de nombreux pays, et d'ailleurs y compris des démocraties, dont on pensait qu'elles étaient par nature ouvertes. On parlait des États-Unis, c'est évidemment le cas. Mais jusqu'ici, les résistances à ce retour étaient quand même très fortes, pour des raisons d'ailleurs souvent tout à fait honorables, qui avaient trait à la liberté, au développement économique, au progrès social, etc. etc. Est-ce que cette crise du Covid n'est pas en train de préparer nos esprits à l'idée que, finalement, le retour des frontières n'est pas forcément une mauvaise chose, Michel Fouché?
Oui, encore faut-il s'entendre sur le mot « frontière », hein, qui a été un peu, je dirais, perverti par la perspective uniquement des crises migratoires euro-méditerranéennes. Une frontière, c'est pas un mur, c'est pas une barrière, c'est le périmètre de l'exercice de souveraineté d'un État. C'est une institution établie par traité, quelles que soient les conditions de sa formation, et c'est là qu'on exerce un certain nombre de fonctions fiscales, des fonctions de contrôle, des fonctions de sécurité, des fonctions de santé. Il y a des pays où vous êtes encore obligé de présenter le carnet jaune de vaccination de l'OMS quand vous allez dans les pays tropicaux. Donc il y a et d'ailleurs je pense qu'on aura sans doute dans certains pays besoin d'une sorte de passeport sanitaire pour pouvoir y venir quand on vient de zones où le virus a été extrêmement actif. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que, en raison de l'intégration du marché dont parlait Yves Pascaud, mais aussi de l'idéologie du libéralisme absolu, du produit standardisé qu'on vend partout de la même façon, on s'est inscrit dans une rhétorique du sans frontières comme si c'était un progrès. En réalité, ces frontières étaient devenues, notamment en Europe, beaucoup moins visibles. Mais elle restait là, la fonction policière, elle s'exerce à Roissy, pas à Strasbourg, mais c'est la même fonction. Donc, ce qui fait retour, c'est pas la frontière en tant que telle, c'est le fait que le monde est structuré en États-nations, que le monde n'est pas seulement un marché, pas plus que l'Union européenne, c'est la grande erreur actuelle, et que la base de l'exercice politique, de l'exercice de la démocratie quand elle existe, c'est l'État-nation. Et parmi les attributs de l'État-nation, il y a l'attribut régalien de la sécurité, du contrôle, de la fiscalité et aussi de la santé, qui est une prérogative nationale. Donc, ce qui fait retour, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire refoulé par les mondialisateurs, les gens. Et derrière ça, il y a la question dont j'ai pas le temps de parler ici, mais la frontière, c'est une catégorie parmi d'autres des limites. Et on est dans un monde aujourd'hui où, soi-disant, on devrait vivre sans limites. Ça crée un manque de repères. Et je crois qu'il faut être capable d'aborder ces questions autrement que ne le fait l'extrême droite. Moi, je ne suis pas pour le repli. Je suis pour une distinction entre le dedans et le dehors, sans discrimination du dehors, parce que c'est là que se joue l'interaction. Il n'y a pas de société ouverte si on ne sait pas où on est. Et donc, cette réflexion sur les frontières, elle accompagne en fait la réflexion sur l'État-nation, elle accompagne la réflexion sur la souveraineté. organisons en Europe, on l'a déjà fait, des formes de coopération, de souveraineté partagée quand on a des intérêts communs.
Mmh. Michel Fouché, vous parlez de refoulé. Est-ce que justement ce retour du refoulé va produire une forme... Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent ou imaginent qu'on va démondialiser le monde. Mais est-ce que quand même, il n'y a pas quelque chose de cette nature-là qui risque d'émerger dans ces prochains mois, dans ces prochaines années? On parle de relocalisation, on parle de restructuration de nos systèmes productifs. Jusqu'où est-ce que toute cette affaire peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on peut démondialiser le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, Michel Fouché?
Écoutez, il faudrait poser la question aux économistes, mais il est clair qu'on a découvert les excès dans les chaînes d'approvisionnement d'un certain nombre de produits stratégiques, en l'occurrence des produits de santé, mais on risque un jour, et on le sait bien à Radio France, on risque une pandémie numérique. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura, pour des raisons volontaires, mal intentionnées ou des accidents en chaîne dans un data center, il y aura un risque d'interruption des réseaux, alors que le télétravail va évidemment se développer, en tout cas dans les économies avancées. Donc c'est cette vulnérabilité que l'on découvre. On découvre aussi qu'on devient incapable de penser à long terme. On est trop dans le principe de précaution. On n'est pas assez dans l'accompagnement stratégique. Cette pandémie, elle était déjà indiquée comme un risque majeur dans le livre blanc de la défense et de sécurité nationale de 2008. Ça a été repris en page 46 du livre blanc de 2013. Et on l'a écrit de manière intelligente. Les gens qui ont écrit ça étaient tout à fait pertinents. Et on n'en a rien fait. Donc, si vous voulez, ce que ça remet en cause, cette affaire de pandémie, c'est plutôt la nécessité d'États capables de penser les intérêts communs à long terme. Et là, on se heurte évidemment à la marchandisation généralisée, y compris des réseaux sociaux. Quand je vois les écologistes dire qu'il faut revenir à quelque chose de plus sobre, ils le disent quand même en utilisant les réseaux sociaux américains.
Yves Pascoe, même question, mais en la regardant sur le volet vraiment migratoire. On va parler une fois encore dans un très court instant de la question européenne, mais de façon générale, Yves Pascoe, parce qu'on voit déjà qu'à l'échelle du pays, il y a des migrations intérieures qui pourraient découler de cette crise de la Covid, avec des gens qui pourraient tenter de quitter la ville pour gagner la campagne. On en parle beaucoup ces derniers temps, d'autant que le télétravail pourrait se développer. On imagine qu'on pourrait également voir des modifications à l'échelle des nations et des continents. Jusqu'où vous pensez que les logiques migratoires pourraient être remises en cause dans les années qui viennent? Jusqu'où les niveaux et les trajectoires migratoires pourraient se retrouver transformés, Yves Pascoe?
Ouais, j'ai pas de boule de cristal pour vous répondre.
En vous appuyant évidemment sur l'analyse des faits actuels, contemporains.
Disons que la question est très large. Si on veut bien regarder les flux migratoires à l'échelle mondiale, ils sont pas forcément très très développés. Il y a que 3,5% de la population mondiale qui est en situation de migration, et la très grande majorité de ces migrations-là sont des migrations régionales. Donc, est-ce que tout ceci va modifier de manière significative les mobilités? Je suis pas tout à fait certain. Je pense que les mobilités vont continuer, parce que c'est le propre de l'homme depuis la nuit des temps, mais celles-ci vont continuer. Elles vont peut-être, là, possiblement être rendues beaucoup plus difficiles en fonction des endroits, en fonction des considérations d'ordre sanitaire, économique, de la modification de la redistribution du monde. Ce que disait un petit peu Michel Fouché tout à l'heure, c'est que l'espèce de marchandisation du monde, c'est qu'on est passé d'une société de stock à une société de flux. Donc ces flux-là vont devoir être repensés en termes géographiques, et tout ceci aura possiblement un impact sur la gestion des migrations. Mais somme toute, la question migratoire, nous on la voit sous un prisme, je dirais, avec des lunettes grossissantes, mais si on veut bien prendre la migration dans sa dimension mondiale et globale, elle ne relève que d'une toute petite catégorie de personnes.
En tout cas, cette mobilité, très clairement, elle a été mise à rude épreuve sur les frontières, de part et d'autre des frontières. On va se mettre justement à la frontière entre la France et la Belgique. Écoutez.
C'est bizarre. C'est compliqué parce qu'effectivement, nous, on a toujours été entre la France et la Belgique, puisqu'on travaille tous les deux en Belgique. Pour mon mari, il a le droit des chèques repas qui sont utilisables qu'en Belgique, qui font partie de son revenu. Et donc, c'est une grosse perte financière puisqu'on ne peut pas les utiliser en Belgique. Parce que le trajet doit se faire uniquement pour le travail. Donc, on ne peut pas mettre notre essence, on ne peut pas acheter de cigarettes, on ne peut pas faire nos courses. Pour certaines personnes, le confinement, ça coûte moins cher. Mais pas pour nous, quoi. Pour nous, ça nous revient plus cher.
Voilà, témoignage de cette Française qui habite près de la frontière belge, un témoignage recueilli par RFI. En quelques années, c'est la deuxième fois que l'on assiste en Europe au retour des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. C'était le cas déjà en 2015, suite à l'afflux de réfugiés et à la crise de l'accueil qui s'en est suivie. Cette fois, c'est donc un virus qui aura eu raison de la libre circulation des individus et des biens. Alors, on sait bien qu'il existe dans les accords de Schengen un dispositif qui prévoit précisément la suspension temporaire du principe de libre circulation. Mais Michel Fouché, est-ce que l'exceptionnel ne risque pas de devenir la norme? Quel est le risque de voir les contrôles devenir à l'intérieur de l'Union la norme? Et avec quelles conséquences politiques, Michel Fouché?
Alors, en longue durée, en effet, on peut, quand on étudie l'histoire du passeport, hein, c'est tout à fait intéressant, parce que pendant des siècles, les passeports étaient des passeports intérieurs. Hein. On n'avait pas le droit de circuler en réalité. Il fallait rester attaché à la glèbe, comme on disait à la fin du Moyen-Âge. Et ce n'est qu'au Royaume-Uni, avec les besoins en main-d'œuvre dans les mines et dans les usines, que l'on a commencé à assouplir, à partir de la fin du XVIIIe siècle, la liberté de circulation. Ça a été fait ensuite en Allemagne. Mais pendant la Révolution française, on a établi des passeports pour contrôler les émigrés qui allaient préparer la contre-révolution à partir des territoires frontaliers. La guerre de 14 va accélérer tout ça, la carte d'identité, et puis l'invention des passeports, cette fois pour pouvoir entrer dans un autre pays. Les pionniers, ce sont les Italiens qui voulaient faciliter justement l'émigration de masse vers les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Et en effet, ces dispositifs qui ont été pris soit pendant des périodes de conflit impliquant la conscription et le contrôle du mouvement des populations et des soldats, soit pour les migrations à longue distance, ces dispositifs, carte d'identité, passeport de sortie et d'entrée, sont en effet restés jusqu'à maintenant, à la seule exception de l'espace intérieur Schengen, de l'Amérique du Nord et de quelques pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est. Donc en effet, le risque est bien là, que des mesures temporaires persistent.
Avec quelles conséquences, Yves Pascaud, parce que la libre circulation, c'est quand même l'un des piliers du projet européen. Dans l'hypothèse où elle serait largement, profondément remise en cause, est-ce que ce projet européen est encore viable, Yves Pascaud?
Il est viable sur le fond, ça c'est mon opinion personnelle. En revanche, dans sa réalité, je crois que l'idée qui a été celle qui a été menée notamment par Jacques Delors au milieu des années 80, de marché intérieur, c'est-à-dire de faire de l'espace européen un marché unique, comme si c'était un marché national, cette idée-là aura vécu, parce que le rétablissement des contrôles aux frontières a pour effet, en réalité, de rendre ce marché intérieur caduque. Ce qu'il faut voir hein, sur cette question du contrôle aux frontières intérieures, c'est la manière dont les choses ont évolué très rapidement. Le principe de la liberté de circulation faisait que au début de Schengen, ceux qui n'étaient pas autorisés à franchir la frontière d'un État vers un autre étaient ceux qui constituaient une menace à l'ordre public. Et au tout début de Schengen, ceux qui constituaient une menace à l'ordre public, c'était les hooligans, par exemple, dans le cadre de l'organisation de compétitions sportives, ou les opposants politiques, dans le cadre notamment d'organisations de rendez-vous politiques. Moi qui viens de Bayonne, par exemple, lorsqu'il y avait des manifestations à Bayonne, on savait très bien qu'un certain nombre de personnes qui venaient d'Espagne n'étaient pas autorisées à rentrer pour rejoindre la manifestation. Mais on avait là deux raisons assez clairement identifié de fermeture de la frontière pour des individus. Ensuite, à partir de 2015, on a vu apparaître une notion beaucoup plus large qui était celle finalement de rétablir les contrôles pour éviter que des demandeurs d'asile sous procédure Dublin, des migrants en situation irrégulière passent d'un État à l'autre. Et donc on avait quand même identifié que les mouvements secondaires de demandeurs d'asile d'un État membre à un autre constituaient pour certains États une menace à l'ordre public et devaient être empêchés. Désormais, avec le Covid, on a un renversement complet de cette situation-là, c'est-à-dire que en fait, dans certains pays, alors vous aviez l'exemple entre la France et la Belgique, et moi, je vous invite à relire d'ailleurs un très bon article de Gia Pasquale dans Le Monde, où elle a fait un reportage sur la frontière entre la France et l'Espagne, notamment au poste frontière de Biriatou, où en fait la situation est une fermeture généralisée de la frontière et seules certaines personnes sont habilitées à la franchir. Alors ceux qui ont la nationalité, ceux qui y travaillent, etc. Donc on a là en fait un renversement en 10 ans d'un principe où tout le monde circule et l'exception ne vaut que pour des individus clairement identifiés, à une situation aujourd'hui où personne ne circule et seuls peuvent circuler ceux qui ont une attestation.
Et ça, je crois que c'est renversement, un changement radical. Oui, vous avez raison, c'est un changement radical. Mais est-ce que ce renversement, il ne met pas en péril le projet européen qui, quand même, une fois encore, s'appuie notamment sur ce pilier de la libre circulation. Il libre circulation, c'est pas, c'est le régime inverse. Hein.
Mais ce qu'il faut faire attention, à deux choses. Alors, c'est un petit peu technique, mais il met en péril ce qu'on appelle le marché intérieur, c'est-à-dire ce marché européen qui est identique à un marché intérieur. En revanche, il ne met pas en péril la question de la liberté de circulation, parce que si on repart en arrière, au début des années 60, il existait un principe de liberté de circulation pour les citoyens européens, même si les frontières existaient. C'était la possibilité pour un Français d'aller chercher ou exercer un emploi en Belgique. Et donc, il avait le droit d'entrer et de séjourner en Belgique, mais avant d'entrer et de séjourner en Belgique, il passait par la frontière et démontrait les raisons pour lesquelles il rentrait.
Enfin, pour le moment, c'est même pas le cas. Pour le moment, c'est même pas le cas.
C'est précisément là que la nouveauté est tout à fait saillante et tout à fait exceptionnelle. Là, on a totalement renversé les choses. Mais il faut bien faire la différence entre le marché intérieur qui, pour être totalement applicable, requiert en fait finalement la levée des contrôles aux frontières intérieures et la liberté de circulation qui peut exister avec des contrôles entre les États.
Michel Fouché, comment l'Europe doit et peut répondre à ce défi avec d'un côté ce retour des frontières qui de facto s'impose à nous, parce que à la fin, la frontière, ça reste le précaré des États-nations. Et en réalité, c'est les États-nations qui décident de les ouvrir ou de les fermer. On le voit bien avec cette crise sanitaire. Comment est-ce que l'Europe doit réagir pour ne pas perdre l'âme du projet européen? Quel réajustement des règles permettrait de trouver un nouvel équilibre, Michel Fouché?
Alors là, en ce moment, on n'en parle pas, mais les États sont tous en train de négocier des accords bilatéraux de réouverture progressive des frontières intérieures d'ici l'été, je dirais, à situation sanitaire équivalente. Hein. Il y a des discussions entre la France et le Royaume-Uni, entre l'Allemagne et l'Autriche, au sein du Benelux, etc. Donc, et certains États comme le Portugal ou la Grèce sont en train d'aménager les restrictions pour l'été pour essayer de sauvegarder une partie de leurs revenus touristiques. Donc, ça va se mettre en place progressivement, de manière, je dirais, bilatérale, hein, comme dans une mosaïque de fragments. Une des choses, pour revenir à la question européenne par rapport au marché, si vous voulez, le projet européen, c'est pas seulement un projet économique. C'est ça ce qu'on découvre. On découvre qu'il y a des États, on découvre aussi qu'il y a des cultures. Je suis tout à fait fasciné par les différences de décision entre Copenhague et Stockholm. Deux pays scandinaves qu'on assimile, des pays qui étaient souvent sociodémocrates, c'est un peu moins vrai maintenant, qui ont eu deux politiques complètement différentes de gestion du virus. Et là, ce qu'on découvre, et l'Europe n'est pas la Chine, c'est la diversité intérieure de ces cultures, parce que les questions de santé, ce sont d'abord des questions culturelles, hein, des questions de responsabilité, des questions de raison. Nous, on a joué la menace, en Allemagne, on a joué la responsabilité et la raison. Les protestants, les catholiques, on redécouvre énormément de cette diversité culturelle de longue durée de ces nations fragmentées. Et c'est ça ce qui... moi, je souhaite que ça demeure et qu'on arrête, si vous voulez, de n'avoir comme projet que celui d'un rouleau compresseur. Thierry Breton l'a dit, le but de la construction européenne, ça n'est pas d'offrir le maximum de produits au prix le moins élevé, c'est-à-dire fabriqué en Chine. Et là, j'espère qu'il y aura peut-être une prise de conscience de la nécessité de mieux travailler ensemble en respectant cette richesse culturelle. Hein. La force de l'Europe, le moteur de l'Europe, c'est la friction entre les petites différences.
Michel Fouché, évidemment, j'abonde et je vous l'imaginez bien, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que nous sommes une diversité et que cette richesse culturelle, eh bien, c'est la richesse de l'Europe. J'entends bien, mais vous dites, l'Europe, c'est pas seulement le marché unique. Ça, c'est votre point de vue, Michel Fouché, mais il y a quand même beaucoup de pays qui participent à ce projet européen pour qui, précisément, c'est largement l'essentiel. Et je parle pas seulement du Royaume-Uni qui est en train de quitter l'Union européenne. Si vous regardez du côté de l'Allemagne, c'est au fond à peu près la conception qu'on a de l'Europe aujourd'hui.
Oui, enfin, l'Allemagne évolue rapidement.
Beaucoup moins vite que ce qu'on espérerait, ici à Paris.
Oui, mais elle évolue par consensus. Une décision prise par consensus est très, très solide. Non, le prochain enjeu pour nous, c'est la question de la souveraineté numérique. Parce que là, l'adaptation au confinement, ça a été la surconsommation d'applications très utiles, y compris pour la radio, mais nous avons perdu la maîtrise en Europe de nos données personnelles. Le prochain enjeu avec la 5G, c'est est-ce qu'elle sera chinoise ou pas, où est Nokia Ericsson, et est-ce qu'on gardera la maîtrise des données industrielles qui circuleront à travers la 5G. Ça, c'est des vraies questions, si vous voulez, qui ne sont plus seulement de l'ordre des logiques de marché, hein. La logique de marché pour Orange, c'est de s'adosser à Huawei ou de Bouygues. Bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que des logiques de marché? Il faut un accord, évidemment, pour éviter la concurrence. Des logiques de souveraineté qui sont des logiques, je dirais, politiques. Je crois qu'on redécouvre aujourd'hui les notions d'État, de nation culturelle, mais aussi d'intérêt commun. Et c'est une question qui va se poser extrêmement rapidement d'ici la fin de l'année. La souveraineté numérique.
Et cette question, justement, on l'abordera notamment jeudi, puisqu'il sera question de la protection des données personnelles que vous évoquiez justement. Yves Pascaux, pour revenir sur l'Europe et la manière dont elle organise la levée, j'allais dire le retour de la levée des frontières, c'est-à-dire la manière dont elle organise le déconfinement. Michel Fouché rappelait à raison qu'on est là déjà dans un processus de discussion pour organiser ce déconfinement et pour rouvrir les frontières, mais effectivement, ce sont des discussions bilatérales. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir, Yves Pascaux, ou est-ce qu'au fond, ça révèle une fois encore cette incapacité de l'Europe à organiser collectivement cette gestion des frontières, Yves Pascaux?
En fait, il y a un principe assez simple, c'est que l'Europe ne peut agir qu'à partir du moment où on lui donne le pouvoir d'agir. Or, on voit bien que sur cette question des frontières, l'Europe coordonne, parce qu'elle n'a pas de pouvoir, puisque précisément, les États n'ont jamais abdiqué leur souveraineté sur leurs frontières, qu'il s'agisse de la frontière extérieure ou de la frontière intérieure. Et donc, finalement, l'Union européenne, et en son nom la Commission européenne aujourd'hui, est en train d'essayer de coordonner, en fait, la question de la levée des contrôles aux frontières. Parce que...
Elle y arrive, qu'a fait la Commission... elle y arrive, parce que c'est pas l'impression que ça donne, mais...
Je pense qu'elle va finalement y arriver, parce que les intérêts bien compris de chacun, c'est de faire en sorte que après cet état de suspension qu'on a connu avec les confinements successifs et la fermeture des frontières, tous les États européens, et il ne s'agit pas simplement de logique de marché, mais de logique économique, ont bien compris que leur intégration économique est à ce point importante qu'il faut réouvrir les frontières pour que tout le monde puisse continuer à exercer une activité économique. En fait, le grand enjeu de l'Europe aujourd'hui, c'est à la fois de préserver l'économie classique, parce que c'est sur cette économie-là que nos sociétés fonctionnent, et donc pour éviter une destruction massive économique et sociale, mais aussi d'engager la transition. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Michel Fouché, il y a des éléments qui sont absolument déterminants dans le futur de la construction européenne, et à la tête desquels la Commission européenne essaie de travailler. La question numérique est tout à fait déterminante et importante. Mais aussi, il y a tout l'enjeu des questions stratégiques. comment est-ce qu'on rétablit sur l'espace européen, parce que le rétablir sur l'espace national me semblerait pas forcément être tout à fait pertinent pour la grande majorité des enjeux stratégiques, mais rétablir sur l'espace européen les enjeux stratégiques que sont l'alimentation, la santé. Ça, ce sont des éléments qui doivent désormais habiter et animer la réflexion sur le fameux après-Covid qui réclame en fait une coordination ouais. de la part des institutions européennes.
Donc ça veut dire, Michel Fouché, si on doit vraiment changer, que par exemple, il faut changer le rôle que l'on donne aujourd'hui à la question de la libre concurrence en Europe, qui parfois, on l'a vu, empêche justement l'émergence de champions européens. Il faut revoir totalement cette idée que peut-être faire fi un peu de cette libre concurrence qui organisait tellement la stratégie européenne en matière industrielle, Michel Fouché.
Même la commissaire danoise, Margrethe Vestager, a compris qu'il fallait changer de point de vue. Hein, encore une fois, ça n'est plus. L'Union européenne, c'est le premier marché du monde. On oublie toujours ça. C'est la première puissance économique mondiale. C'est le premier marché du monde. Donc, c'est celui qui intéresse le plus les autres. Et c'est celui qui est le plus ouvert. Et qui a procédé au plus de transferts de technologies pour avoir accès au marché, au grand marché extérieur d'Amérique du Nord et d'Asie orientale.
Donc il faut le refermer un peu. Donc il faut le refermer un peu. Parce que c'est ça qui va se produire.
Je crois qu'on a besoin, de définir un certain nombre d'intérêts communs, d'intérêts partagés, comme dirait Michel Barnier, dans des secteurs stratégiques. Moi, je trouve que là, de ce point de vue-là, Thierry Breton est en train de mettre en place des objectifs tout à fait essentiel. Les Allemands commencent à comprendre que 400 entreprises du Mittelstand, des moyennes entreprises, ont été vendues ces dernières années, faute de succession dans la famille, à des entreprises chinoises, 250 en Italie. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à brader les bijoux de famille. Et en ce moment, nous sommes dans une période extrêmement délicate parce que les entreprises ont vu leur cours de bourse complètement dévalué. Ça en fait des cibles. Donc, l'idée de souveraineté, si vous voulez, est en train de prendre corps. Hein, on se rend compte que... Et puis, bon, on ferme les frontières, mais tout le monde regarde de l'autre côté pour savoir comment on s'y prend. Ce qui fait que, en gros, on a l'air d'agir en ordre dispersé, mais pas tant que ça, parce qu'on est obligé de se coordonner. La Commission européenne a réagi assez bien dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire la coordination économique, l'assouplissement des règles budgétaires. La Banque centrale européenne a fait ce qu'elle devait faire, malgré l'avis de la Cour de Karlsruhe. Et il y a cette initiative franco-allemande qui marque un formidable progrès dans les partis politiques allemands, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que l'Allemagne ne pourra pas prospérer dans une île entourée de pays en difficulté économique.
Ouais, donc en réalité, même si c'est pas ce que montrent les apparences, on se coordonne. En tout cas, on regarde ce que font les uns et les autres, et donc d'une certaine manière, il y a quand même une coordination, même si elle n'est pas sous les formes qu'on peut attendre traditionnellement. Michel Fouché et Yves Pasquo sont nos invités ce matin. Nous parlons de circulation, liberté de circulation, le retour des frontières, dans cette nouvelle série dans Culture Monde, cette semaine, Droit et Liberté au temps du coronavirus. 11h38, vous écoutez France Culture.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Fermeture des frontières terrestres le 2 avril dernier. Plus de 250 migrants ont été abandonnés par leurs passeurs aux frontières nigéro-libyennes avant qu'ils ne puissent rentrer chez eux. Les migrants passent par les 4 centres de transition situés près des frontières libyennes, tchadiennes et algériennes dans le nord du pays. C'est dans le camp d'Arlit, dans le nord du Niger, que le 20 avril, donc, plusieurs migrants se sont révoltés pour réclamer des conditions sanitaires plus dignes et ont pillé un magasin de l'OIM. On va retrouver une nouvelle invitée pour parler de droit d'asile et d'immigration. Céline Canta, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au CERI, au Centre de Recherche International, une spécialiste des questions relatives aux migrations, aux réfugiés et aux réseaux de soutien aux migrants. D'abord, sur la question de la situation des réfugiés dans les camps. C'est une question que vous connaissez bien. En particulier, vous avez particulièrement étudié la route des Balkans. La situation de ces réfugiés dans les camps, jusqu'à quel point là elle s'est dégradée? On a parlé au début du confinement de bombes sanitaires en puissance. On a une idée de la situation dans ces camps en Europe?
Alors effectivement, la situation dans les camps, surtout en Grèce, en particulier dans les îles de la mer Égée, où ont été installés depuis 2016 ce qu'on appelle des hotspots, qui sont des espèces de centres de triage, est tout à fait dramatique. Ce sont des camps qui ont une capacité pour environ 6000 personnes, qui en accueillent aujourd'hui 36 000. Donc vous imaginez bien que les conditions sanitaires et le respect des normes de sécurité est quasiment impossible. Et les personnes sont souvent soumises à des quarantaines de masse, donc avec l'interdiction de sortir du camp. Et c'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup des pays de la route des Balkans, où j'ai beaucoup travaillé, donc en Grèce, en Bosnie, en Serbie par exemple, et qui met en danger de manière volontaire la vie et la santé des personnes migrantes.
Est-ce qu'on a une idée, Céline Canta, de la baisse aujourd'hui de l'impact des confinements sur les projets migratoires? On imagine qu'il y a des traversées, des frontières à franchir qui n'ont pas été franchies, qui n'ont pas été réalisées. On a une toute petite idée, on a des chiffres qui nous donnent l'ampleur du ralentissement de l'immigration?
Alors, selon les sources et aussi selon les différentes routes migratoires, on parle d'une baisse d'entre 40 et 90% des arrivées et des enregistrements de demandes d'asile sur le territoire européen entre février et mars. Et c'est une tendance qui a continué entre mars et avril. Il y a une légère hausse des parcours migratoires depuis l'allègement de certaines mesures du confinement, mais c'est de toute façon une baisse tout à fait dramatique. Qui est lié certes aux difficultés et aux entraves au départ, mais aussi à la mise en place de mesures qui empêchent les arrivées sur le territoire européen et l'enregistrement des demandeurs d'asile. Donc c'est à la fois les mesures de confinement dans les pays d'origine et de transit qui empêchent donc les personnes de circuler et de commencer leur parcours migratoire, mais c'est aussi, par exemple, la fermeture de certains ports en Sicile ou à Malte au débarquement des exilés, ou la suspension des procédures d'enregistrement de l'asile dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne qui participent à cette situation.
Même si, en réalité, il y a toujours évidemment des migrants qui arrivent et les passeurs s'adaptent. Il y a eu hier des dizaines de migrants qui sont arrivés sur des plages de Sicile dans la région d'Agrigente. Donc de toute façon, évidemment, les choses se réorganisent et ces flux migratoires se poursuivent. On parle de droit aujourd'hui, Céline Canta. La libre circulation, c'est évidemment une condition nécessaire, absolument indispensable au droit d'asile, puisque pour qu'une personne puisse demander l'asile, il faut évidemment qu'elle puisse se rendre dans le pays où elle va faire la démarche. En suspendant la circulation, en fermant les frontières, on a également suspendu la possibilité pour les personnes de passer d'un pays à l'autre. Est-ce que ça veut dire que, au fond, nous avons ici en Europe cessé de facto de respecter le droit d'asile qui pourtant est inscrit dans le droit européen et dans les conventions internationales que nous avons signées?
Déjà, je tiens à souligner que ces obstacles à la circulation s'inscrivent dans une tendance à fermer les frontières aux exilés qui est bien antérieure à la crise sanitaire.
Bien sûr.
Mais qu'en l'occurrence, on observe effectivement un phénomène d'instrumentalisation de la situation sanitaire liée à la Covid qui vient justifier une fermeture encore plus hermétique des frontières aux demandeurs d'asile. Et effectivement, les États sont tenus normalement de mettre en place des mesures qui permettent l'accès au territoire et à le demandeur et à la demande d'asile pour les exilés, même en situation de crise sanitaire. Et cela n'a pas été respecté depuis la mise en place des mesures de confinement et de fermeture des frontières en mars 2020. Donc il y a effectivement une violation du droit international et européen et souvent aussi des législations nationales sur la protection internationale.
Il y a la question du déplacement, des mobilités, mais il y a aussi la question des procédures de demande d'asile. Et là aussi, les choses se sont ralenties, voire même complètement arrêtées. En France, par exemple, l'OFPRA a annulé, je crois, un certain nombre d'entretiens pour ces processus de demande d'asile. Il y a des audiences en appel devant la Cour nationale du droit d'asile qui ont été annulées. Donc là aussi, ça veut dire que ce droit d'asile a fait les frais de la pandémie.
Oui, effectivement, on a une suspension des services à la fois d'enregistrement et de traitement des demandes d'asile à Chypre, en Hongrie, en Grèce, en Norvège, en Belgique, soit avec un ancrage dans la législation, donc une suspension juridique, soit de facto, hein, comme en France, où il n'y a pas eu de décision juridique de suspendre les demandes d'asile, mais où le manque de personnel et la fermeture des services a fait que en fait les demandes d'asile ne pouvaient plus être enregistrées et traitées.
Oui, vous voulez poursuivre, c'est une cantale, allez-y, je vous en prie.
Oui, j'allais dire que depuis la suspension des mesures de confinement, dans certains pays, ces services ont été rouverts et recommencent de manière lente et souvent selon des modalités modifiées. Donc, par exemple, avec des services en ligne ou par voie postale et d'une manière générale, un traitement beaucoup plus lent des demandes d'asile. Dans certains autres pays, comme en Hongrie, la situation sanitaire a finalement été le prétexte à une suspension qui, pour le moment, est à durée indéterminée du service de l'asile, ce qui, une fois de plus, s'inscrit dans une tendance bien antérieure à la crise sanitaire actuelle, puisque depuis 2015, la Hongrie démantèle petit à petit le droit d'asile dans le pays. Et là, nous sommes arrivés à un point où, de manière effective, il n'existe plus de droit d'asile en Hongrie.
Céline Cantat, je voudrais qu'on regarde, j'allais dire, une partie très particulière des migrants en Europe, ce qu'on appelle les saisonniers omis, c'est-à-dire de l'Office des migrations internationales. Ils sont très sollicités, notamment dans le secteur agricole. Ils viennent d'un peu partout, du Maroc, de Tunisie, mais ils viennent aussi de Pologne ou de Roumanie. Ils sont embauchés dans leur pays. Et puis, on organise leur acheminement pour quelques mois avant de repartir chez eux. Ils viennent travailler dans des pays cibles. Est-ce que ce type de migration a été totalement suspendu pendant le confinement? Avec quelles conséquences? Comment ça va se passer maintenant? Parce que c'est une main-d'œuvre dont l'Europe, en particulier, puisque c'est ça dont on parle, a besoin, Céline Cantat.
Oui, à cet égard, on voit bien que la politique de fermeture des frontières aux migrants est une politique du deux poids, deux mesures, puisque lorsque les migrants sont considérés comme utiles, donc en particulier, comme vous le disiez, lorsqu'ils participent par leur travail à la protection des vies européennes, à la continuité alimentaire des Européens, leur arrivée sur le territoire devient soudainement possible. Donc on l'a vu en particulier avec l'arrivée des travailleurs saisonniers d'Europe de l'Est, qui sont venus par dizaines de milliers pour travailler dans le secteur agricole en Angleterre et au Royaume-Uni. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est un régime de mobilité différencié selon une appréciation des valeurs et des utilités des personnes en migration. La même chose a pu être constatée dans le secteur médical, par exemple, où pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre, des procédures exceptionnelles ont été mises en place, par exemple pour permettre la reconnaissance des diplômes étrangers, donc des personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas autorisées à exercer leur profession en Europe, qui tout d'un coup ont été mobilisées pour répondre à la crise sanitaire.
Oui, donc on voit, Yves Pascaux, peut-être une réaction que du côté de l'Europe, certains pays, en tout cas la situation, a fait qu'il a fallu considérer différemment justement ces travailleurs. Par exemple, du côté du Portugal, on a décidé de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier pour les protéger, bien sûr, mais aussi parce qu'ils assuraient des emplois qui étaient absolument indispensables pour faire tourner l'économie, pour faire tourner le pays. On a en Italie une ministre de l'Agriculture qui a plaidé pour la régularisation de 600 000 étrangers en situation irrégulière pour faire repartir l'économie. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois qui viennent à une transformation profonde de la gestion des pays d'Europe, de ces flux migratoires, Yves Pascaux?
Ah, j'aimerais bien, mais malheureusement, je suis pas tout à fait certain que nous en prenions la voie. Il est évident que cette crise-là a démontré que toute une série d'emplois qui font le lien social dans nos pays sont exercés pour beaucoup par des personnes en situation irrégulière. Et si le Portugal, qui est une exception à l'échelle européenne, les a régularisés, effectivement, il y a aujourd'hui de nombreuses voix qui s'élèvent pour demander, à mon avis à juste titre, la régularisation de tous ceux qui ont permis à nos sociétés de fonctionner tant bien que mal pendant cette période-là. Quant à l'avenir, eh bien, on sera fixé assez rapidement, à mon avis, puisque, alors peut-être pas au Conseil européen de juin de cette année, mais probablement, mais au second semestre, à la fois le Conseil européen et la Commission européenne vont présenter leurs orientations sur le futur de la politique migratoire de l'Union européenne. Et à mon avis, je pense que les éléments qui vont tenir le haut du pavé sont toujours les mêmes depuis ces dernières années, voire ces dix dernières années. C'est le contrôle de la frontière extérieure, le renvoi des personnes en situation irrégulière, tant bien que mal le maintien et encore du système d'asile européen commun. Et puis, point final, tout ce qui relèvera de l'immigration légale et de l'immigration de travail fera l'objet très certainement de quelques lignes de la part de la Commission européenne, encore moins de la part des chefs d'État et de gouvernement, mais cette dimension-là de la politique, à mon avis, demeurera une politique purement nationale et qui sera prise en considération en fonction des besoins de son marché du travail ou des différents secteurs d'activité.
Merci beaucoup en tout cas à Céline Canta qui est avec nous par téléphone, qui est chercheuse au CERI. On va prendre la direction tout de suite de l'Allemagne.
Nous sommes ici aujourd'hui et on profite du beau temps. Et on veut lancer un signal avec cette rose blanche et dans le calme. On veut défendre notre opinion aujourd'hui pour la préservation des droits fondamentaux, de la liberté d'expression. C'est très important car la liberté commence à régresser au cours des dernières semaines. C'est pour ça qu'on est ici.
Voilà, ça c'est une manifestante du côté de Berlin il y a quelques semaines maintenant. Alors il dénonce pêle-mêle les restrictions de circulation, la presse mensongère, la 5G, les vaccins. Certains demandent la démission de la chancelière, qui sont ces gens qu'elle part de militants d'extrême droite bien décomplexés depuis quelques années avec l'apparition sur la scène politique de l'AFD. Bonjour Hélène Mire de la Croix.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne à l'université Sorbonne. Ça fait quelques week-ends maintenant que des manifestations contre les mesures de lutte contre le Covid s'organisent un peu partout dans le pays. Berlin, Munich, Stuttgart, Hambourg, Dresde. Vous avez été étonnée, Hélène Mire de la Croix, de voir ces Allemands se mobiliser dans ces corona-demos, comme on les appelle.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est le mélange très hétéroclite de types de personnes qui participent à ces manifestations. Elles n'ont pas eu grand succès hier parce qu'il a fait mauvais temps et on attendait plusieurs milliers de personnes et ça a été un peu plus un flop. Ce qui m'étonne moins, c'est cette capacité de mobilisation qu'a en Allemagne l'idée de défendre la liberté de l'individu face à des possibles excès de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique de l'Allemagne, où il y a une tradition libertaire, une espèce d'hypervigilance de l'Allemagne fédérale, de cette culture qui, parce qu'il y a eu le passé totalitaire et parce qu'il y a eu aussi une RDA avec où l'État contrôlait énormément les individus, une Allemagne fédérale qui a créé cette espèce d'identité, si vous voulez, sur l'individu en résistance contre un pouvoir potentiellement menaçant. Dans le reportage que vous avez passé, les quelques secondes, cette dame, elle parle d'une rose blanche. La rose blanche, c'est le nom le plus connu du groupe de jeunes résistants au nazisme qui ont été massacrés à Munich. Et il y a tout un jeu avec des références d'une nécessaire hypervigilance face à un État dont on suppose a priori qu'il est mal intentionné et qu'il voudrait casser, couper, violer les libertés fondamentales des individus. Donc ça, c'est pas très étonnant.
Ouais. Donc il y a cette grande vigilance vis-à-vis de la question de la liberté, d'où cette possibilité d'entendre des patrons qui dénoncent le confinement, qui considèrent comme une entrave économique, des défenseurs des droits de l'homme qui ne supportent absolument pas qu'on les empêche de circuler, des anti-vaccins, etc., etc. C'est-à-dire cette défense de la liberté qui est en réalité est peut-être plus prégnante que ce que l'on imagine nous ici depuis la France. Mais la question qui se pose, Hélène Mire de la Croix, c'est quelle part y a-t-il dans tout cela ? Parce qu'il y en a aussi.
Oui.
De militants d'extrême droite, qu'on voit depuis des années maintenant, largement décomplexés, je disais tout à l'heure, c'est vrai. Quelle part ils représentent et dans quelle mesure est-ce qu'ils sont à l'origine un peu? Est-ce qu'ils initient? Est-ce qu'ils organisent un petit peu tout cela?
Alors, vous posez exactement la bonne question. C'est difficile de mesurer exactement la part leur présence physique. Alors, elle est visible pour certains. On voit en Allemagne très clairement des crânes rasés, des Santiago et des muscles très très visibles, avec sans aucune de vergogne, y compris des tatouages néo-nazis. Donc, on sait qu'il y a dans ces manifestations la présence de néo-nazis, d'une extrême l'extrême droite active. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, et c'est là que vous posez la bonne question, on n'arrive pas à les compter pour l'instant, on retrouve cette frange de la population qui est mécontente, qui est inquiète, pour certains, comme vous l'avez dit aussi, pour des raisons économiques, parce que ce sont des gens qui s'inquiètent parce que leur café, leur brasserie est fermée et qui vont perdre leur argent, et qui sont très facilement manipulables par une extrême droite qui a déjà pratiqué la chose au moment de l'arrivée des migrants en 2015, en jouant sur un terme qui est très difficile à traduire en français, qui est les Besorgtbürger, c'est-à-dire des citoyens contrariés, des citoyens inquiets, qui est une espèce d'euphémisme pour dire des citoyens en colère. Et il y a là une masse, si vous voulez, de gens qui, pour des raisons individuellement très incompréhensibles, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de subir quelque chose, subir la perte de leur activité économique là, de subir à l'époque de l'arrivée des migrants des comportements qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont captés par une extrême droite qui dit, selon le modèle du populisme de droite que l'on connaît partout en Europe, nous sommes les seuls à entendre les gens d'en bas qui ouais. sont inquiets, qui sont contrariés et qui ne sont pas défendus par une élite, par une presse mensongère et qui sont donc facilement captables avec des discours qui là rejoignent le complotisme et qui donne une explication rationnelle, enfin apparemment rationnelle, nous oui. avons l'impression qu'elle ne l'est pas, à des phénomènes qui sont en Allemagne les mêmes qu'ailleurs, c'est-à-dire on a réduit mmh. la liberté de circulation et de contact. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de revanche un petit peu triste au fait que l'Allemagne a très très bien réussi son confinement et a très bien réussi ses mesures de lutte contre la pandémie. Et ils ont eu tellement peu de victimes et tellement peu de malades qu'il n'y a pas eu de visibilité dans la population de la gravité du phénomène. Et que quand vous n'avez que 8000 morts et relativement peu de gens malades, la probabilité d'avoir dans votre entourage entendu parler de quelqu'un qui a été très très malade, ou quelqu'un donc qui a perdu son oncle, sa mère, est réduite. Et donc, le fantasme de l'affaire inventée et donc d'une grande manipulation au service des grands groupes pharmaceutiques qui voudraient contaminer l'ensemble de la population avec leur vaccin, avec des idées fantasmatiques que Bill Gates voudrait implanter par ses vaccins des mini-chips à l'intérieur des humains
pour oui, mais alors, mieux les contrôler. C'est d'autant plus étonnant, Hélène Mère de la Croix, parce qu'on entend bien qu'il y a quelque chose d'un peu absurde dans tout ça, qu'on se demande si au fond il n'y a pas là une responsabilité d'Angela Merkel. C'est-à-dire que cette instrumentalisation qui est faite par l'extrême droite, et ça sera ma dernière question, je vous demanderai une réponse courte si vous le voulez bien, mais d'une certaine manière, on savait, on la sait possible, on sait que l'extrême droite fait cela depuis longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un défaut de la part d'Angela Merkel, qu'elle n'a pas été suffisamment alerte, pas suffisamment vigilante vis-à-vis de la montée en puissance des forces d'extrême droite, bien sûr, mais aussi de l'instrumentalisation de ces gens en colère que vous évoquez?
Mais cette instrumentalisation, en plus, on sait qu'elle existe, puisque c'est ce qui s'est passé avec Pegida.
Ouais.
Donc c'est vrai que là, il y a une erreur, et aujourd'hui, il est dit de la part des partis au pouvoir, nous devons écouter ces gens en colère. Sauf que c'est très très difficile de les récupérer. Je suis pas sûre qu'elle ait fait une erreur, ou alors elle a fait l'erreur de ne pas imaginer que l'on puisse suivre des théories complotistes de cette nature. Et comme elle est extrêmement rationnelle et qu'elle a fait appel à la rationalité et à la responsabilité des individus en considérant que c'était des adultes, je pense qu'elle n'a pas imaginé à quel point on pouvait porter crédit à des théories complètement délirante en partie sur des manipulations des individus à ce point. Peut-être n'a-t-elle pas assez vécu en Allemagne de l'Ouest à l'époque où on descendait dans la rue dès les années 50 contre l'état d'urgence, contre des mesures où l'État pourrait s'en prendre aux citoyens. Je pense que c'est encore une de ces surprises de cette histoire.
Merci beaucoup, en tout cas, Hélène Mère de la Croix, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne à l'Université Sorbonne. Merci pour cet éclairage. Un grand merci également pour nos deux invités, Yves Pascaud et Michel Fouché, qui nous ont accompagnés aujourd'hui, qui nous ont éclairés sur cette question de la liberté de circulation. Nous parlons toute cette semaine des droits et des libertés au temps du coronavirus. On poursuivra nos réflexions demain. Je remercie d'ailleurs le CDM qui nous a permis de faire la liaison jusqu'à la maison de la radio. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.